Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
mais je ne sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Tu conduis, ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volémique et ton fuchsie. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mis en faux.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, il est 19h02 et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le Canu Info du vendredi. Et on va commencer par faire un retour sur la manifestation dans le secteur social du 7 mars.
Et juste après, secteur social toujours, on fera un entretien avec une syndicaliste et salariée d'Adoma.
Vous aurez le droit ensuite à des petites brèves locales.
Après, on vous parlera de quelques considérations, donc on reviendra sur la journée des droits des femmes et de la campagne de la municipalité de Lyon. On parlera ensuite très brièvement de Veolia qui n'aime pas beaucoup la loi.
Et puis du côté de Valence, on vous parlera de soutien pour des prisonniers mutins.
On partira ensuite à Mayotte où 3000 mineurs isolés sont sans droit. On rappelle que Mayotte est un département français.
Puis à l'international, on parlera de Trump qui veut interdire les manifestations.
Et on terminera avec une manifestation qui a justement lieu aujourd'hui à Washington contre un oléoduc géant. Bonne écoute sur Radio Canu.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, il s'agit de la fermeture de ces en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
S'inscrivant dans la continuité du combat contre la loi travail et du succès de la journée de grève du 8 novembre 2016, un appel national de grève et de manifestation le 7 mars, donc mardi, se voulait un pas supplémentaire dans la mise en œuvre de l'action commune pour la défense de l'hôpital et de l'action sociale financée par la Sécurité sociale. Les fédérations CGT, FO, Sud Santé et Action Sociale appelaient les agents et les salariés des secteurs du social et du médico-social à poursuivre et à amplifier l'organisation de la journée nationale de grève et de mobilisation prévue le 7 mars. Ces organisations combattent les choix des politiques publiques actuelles du gouvernement, notamment en matière de santé, qui a comme seul leitmotiv de faire des économies. Ces mesures dégradent les missions et les conditions de travail, la qualité de vie des travailleurs et travailleuses, ainsi que la prise en charge de la population. L'abrogation de la loi santé est exigée, ainsi que le maintien de l'ensemble des lits, des services, des établissements et des emplois. De même, la loi de financement de la sécurité sociale, publiée le 24 décembre 2016, est également critiquée, puisqu'elle ne fera qu'aggraver les conséquences de l'austérité budgétaire imposée au secteur de la santé et de l'action sociale. Pour la construction de cette journée, des préavis de grève, donc des manifestations et diverses mobilisations ont été organisées à Paris, ainsi que dans plusieurs villes de province, et notamment à Lyon. Le but était le même, dire non à la politique d'austérité qui s'applique dans les établissements, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les structures sociales et médico-sociales, ce qui met le chaos et la désorganisation allant de fait à l'encontre de la réponse aux besoins des populations. Le micro du Canu Info du vendredi y était et nous a ramené un petit reportage qu'on va vous passer, dans lequel on peut entendre plusieurs témoignages de personnel de l'action sociale, de travailleurs et travailleuses en grève, et des syndicalistes en lutte qui étaient donc dans la rue mardi à Lyon. On écoute ce reportage.
Assez de sacrifices, l'argent pour la santé, l'argent pour le social.
Défendre le statut national, l'ensemble de l'industrie électrique et gazière, toutes les pertes qu'ils peuvent avoir sur les salariés et également sur le prix. En fait, on est en train d'essayer de privatiser l'énergie.
Il est pas bon.
Et en fait, que ce soit les.
Il est pas bon celui-là. Le flic dans son dos. Il est pas bon.
Tu viens de coller un autocollant sur un. Enfin, on va pas dire ton nom, hein, mais.
C'est ça. Ici.
Et donc là, on est devant EDF, et donc là, les gens essaient de rentrer dans EDF, c'est
non,
ça?
Non, on essaye pas de rentrer, on essaye juste de montrer ce qu'on est là.
Bordel.
On essaye juste de montrer qu'on est là.
D'accord.
Le but n'était pas de rentrer ici, mais qu'on passe devant une agence et on montre qu'on est là, et tout.
Ouais,
le truc, c'est qu'on se défend nous, mais on défend aussi les usagers, on défend tout le monde. C'est qu'en fait, le prix d'électricité, on est en train d'essayer de le privatiser un maximum. Et en fait, on veut que l'électricité et que l'énergie soient accessibles à tous, pas qu'à nous. Donc on défend nos emplois parce qu'on est en train de casser l'emploi, on est en train de tout casser, tout ce qui est cassable en fait, on est en train de rendre.
Et donc là vous êtes monté de Savoie dans ces agences?
Non, un peu de partout. Moi je vais dans tout le Montélimar. On est toute l'agence, tout. Il y a les centrales nucléaires de Bugey, de Saint-Alban, de Tricastin, de Cruas. Et en fait c'est tout le Rhône-Alpes qui est représenté ici. Et là on se rend à la préfecture et il y a des délégués qui vont aller rencontrer des adjoints à monsieur Colomb. Quoi monsieur, j'aurais du mal à dire monsieur, mais qui va défendre l'autre enculé de Macron et qui est là justement pour casser tout ce qui a été monté par nos anciens.
Canu Info.
Sur injonction de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique veulent augmenter le budget militaire de 2%. Oui, mais c'est un scandale. On a coupé de l'argent public pour préparer les guerres impériales.
Monsieur le Président.
Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma. Et le 8 décembre dernier, l'ensemble des salariés du centre d'accueil pour demandeurs d'asile du Rhône a refusé de travailler sur un projet d'établissement qui lui était proposé, ou plutôt imposé par la direction générale pour respecter la législation. Parce que depuis un an maintenant, et depuis la réforme de l'asile, il y a eu une accélération des procédures et donc des entrées et sorties des demandeurs d'asile de plus en plus rapides. Donc un travail, un surcroît de travail pour les équipes et puis une déstabilisation pour les demandeurs d'asile. Et Et donc, depuis, il y a eu aussi le démantèlement de la jungle de Calais avec une répartition des demandeurs d'asile aussi dans les centres, mais de manière un peu anarchique et désorganisée, on va dire. Depuis un an, il y a eu au moins 6 ou 7 burn-out, alors que sur les 9 dernières années, il n'y en avait pas eu un. Et donc, aujourd'hui, ADOMA et la SNI n'ont pour seule réponse que de supprimer des postes, d'augmenter les taux d'encadrement des résidents, des demandeurs d'asile, qui étaient de 1 pour 10 et qui passent à 1 pour 20, de ne pas remplacer les personnes en arrêt maladie, les départs en retraite, et donc il y a des suppressions de postes, alors que les équipes sont carrément en souffrance, et les demandeurs d'asile aussi, sachant qu'aujourd'hui on accueille des personnes avec des pathologies de plus en plus lourdes, et au-delà du stress post-traumatique qu'ils peuvent avoir suite à leur parcours dans leur pays ou leur parcours d'exil, aujourd'hui ils sont victimes de stress lié à leur hébergement en CADA parce que les conditions ne sont pas réunies. Souvent il y a des cafards dans les chambres ou dans les cuisines avec des traitements inefficaces de la part de la direction. Il y a aussi une déstabilisation du fait qu'ils sont obligés de changer de référent régulièrement, ça fait qu'ils ne savent pas trop qui s'occupe d'eux. Et puis voilà, donc pour tout ça, aujourd'hui, on refuse de travailler sur le projet d'établissement qui est proposé tant qu'il n'y a pas des réponses concrètes et des solutions qui sont apportées. Alors que la société ADOMA SNI fait des bénéfices et l'année dernière a réalisé 32 millions de bénéfices, mais en aucun cas les répartit sur le terrain et se vante d'être hyper réactif par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile. Mais en fait, sur le terrain, on voit que les équipes souffrent et les résidents aussi. Sachant qu'aujourd'hui, il y a souvent des personnes qui sont handicapées, qui sont atteintes de pathologies comme le cancer, comme des leucémies, et puis beaucoup qui sont en souffrance au point de passer à l'acte sur des tentatives de suicide. Donc voilà, donc c'est ce qui inquiète aussi surtout, et c'est ce qui a déclenché ce mouvement de la part des équipes. C'est vraiment par rapport à cette souffrance des résidents, des demandeurs d'asile qui n'est pas pris en compte. Et donc l'accueil ne peut pas se faire dignement, et plutôt ADOMA organise les conditions d'un non-accueil qui est insupportable.
On réduit, le nombre de lits, le nombre de places, on réduit les structures d'accueil, on fusionne comme on dit, on fusionne pour améliorer le soin, dit-on, et alors que c'est tout le contraire. Vous savez qu'il y a en pédopsie jusqu'à un an d'attente d'avoir un rendez-vous. Et on nous dit que c'est de la désorganisation volontaire du personnel. Non, c'est les moyens qui manquent tout simplement. Les moyens qui manquent tout simplement.
Radio Canu, 102.2.
Monsieur le Président, Monsieur le Président.
Le jour où toutes les conditions seront réunies, c'est-à-dire qu'il y aura des effectifs suffisants et un engagement justement d'ADOMA sur les 3 prochaines années à ce que les taux d'encadrement soient de 1 pour 10 ou 1 pour 15, mais pas 1 pour 20 comme il le propose, alors que la situation est de plus en plus compliquée, là on pourra travailler dessus. C'est pareil, on demande à ce qu'il y ait un psychologue permanent sur l'ensemble du CADA du Rhône, ou des infirmiers qui soient recrutés pour faire face justement aux pathologies, parce que nous on n'est pas formés pour ça, et ça pour l'instant ils ne l'entendent pas, donc c'est simplement ça qu'on demande. Voilà.
Et du coup, pratiquement, tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un CADA?
C'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc on accueille les demandeurs d'asile le temps de leur procédure jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir ou pas le statut de réfugié. Donc aujourd'hui, la moyenne, elle est d'environ un an et demi. Donc j'ai des collègues qui les aident à construire leur récit de vie, ce qu'on appelle le suivi juridique. Et puis j'ai d'autres collègues qui les aident pour le suivi social, donc tout ce qui est relatif à la scolarité, à la santé, à leur démarche administrative. Et donc là, c'est pareil, on essaye de grignoter là-dessus pour que finalement l'aspect social disparaisse au fur et à mesure. sachant qu'au départ, Adoma se revendiquait de logement très social. Aujourd'hui, bientôt, il n'y aura plus que le logement et on oubliera le projet social. Donc c'est ça aussi, c'est qu'ils veulent rentrer dans une dynamique de gestion du patrimoine et de l'hébergement. Aujourd'hui, c'est la SNI, la Société Nationale Immobilière, qui a racheté un petit peu Adoma et ils sont sur de la gestion immobilière. Et le projet social et le travail social est complètement passé à la trappe, quoi. Donc voilà, et donc sachant que toutes les équipes ont été recrutées, dans les équipes il y a des éducateurs, des animateurs, des assistantes sociales, des gens qui ont des formations vraiment de travailleurs sociaux, et c'est insupportable aujourd'hui de leur demander de leur faire simplement de la gestion de flux des résidents sans un accompagnement qui est nécessaire pour ces personnes-là. Donc voilà, donc c'est surtout voilà, des possibilités des résidents qui ne font pas.
L'hôpital Henri Gabriel, en fait, c'est l'hôpital de Cazeneuve-Laval qui s'occupe des grands blessés, des longs séjours. La plupart, c'est pas des hospitalisations de 15 jours, mais c'est des longs séjours, des paraplégiques, tétraplégiques, et ils veulent envoyer ça à Desgenettes, qui n'a pas du tout de tout le cadre qu'il y a en Henri Gabriel, et du coup, ce serait une vraie perte pour le patient, surtout ça, quoi. Tout ce qui est jardin, tout l'import qu'il y a à Saint-Gilles-Laval, tout ce qui peut être l'extérieur, les animaux, qui n'y auraient pas des jets. Et ils ont parlé de éventuellement donner l'accès au parc du Vinatier. Et pour aller au Vinatier de des jets, il faut les traverser à deux fois deux voies. Quand on est en fauteuil, c'est pas le premier truc qu'on a envie de faire.
Et la fermeture, elle est prévue pour quand?
Il y a beaucoup de bruit, hein, il y a beaucoup de bruit. C'est pas acté. Ce serait en voie d'être acté. Mais Desgenettes, s'ils voulaient accueillir tous les longs séjours qu'il y avait à Henri Gabriel, il y aurait besoin de transformer Desgenettes. Et là, actuellement, c'est pas signé, la transformation. Donc, tant que c'est pas signé, voilà.
D'accord. Et s'il y a une mobilisation en cours là-bas?
À Henri Gabriel? Il y a surtout une page Facebook pour ça. Il y a des gens qui sont en tête de cortège, là, qui s'en suit de ça, et sur place, on va un peu partout, quoi. Et il faut un peu partout.
Il est 19h17, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du vendredi. Vous venez donc d'avoir un petit aperçu de la manifestation qui a eu lieu mardi à Lyon du secteur social et médico-social. Et on reste un peu dans le domaine puisque en studio, on accueille aujourd'hui Louise qui travaille pour Adoma, c'est ça?
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et qui est également syndicaliste à Sud.
Ah oui, exact, j'allais oublier. Du coup, Louise, peut-être si tu peux te présenter, puis présenter Adoma après.
D'accord. Je m'appelle Louise, je travaille depuis bientôt 24 ans dans l'asile chez Adoma. Donc on est le premier centre de demandeurs d'asile de la région Rhône-Alpes, donc ouvert en 94.
Ok.
Il fallait donc des salariés diplômés du sanitaire et social. Donc, on était deux personnes à avoir des diplômes pour qu'on ouvre ce centre-là. Et depuis, ce centre a augmenté, et puis a fait des petits dans tout le Rhône, dans tout l'Isère, dans la Loire, et dans l'Auvergne, et dans les Savoies. Donc, maintenant, il y a de l'asile partout chez Adoma.
Et quelles sont un peu les principales missions d'Adoma?
Donc, Adoma, à l'origine, était fait pour loger les salariés qui reconstruisait la France, donc d'origine algérienne auparavant. Ensuite, ça s'est établi que c'était les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, les Maliens. Mais donc, c'était le logement pour les travailleurs migrants.
Ok, et puis ça a évolué un petit peu, du coup
Oui, ça a évolué. Donc, dans les années 90, je vous dis, ils ont ouvert les lieux qu'ils ne pouvaient plus louer aux travailleurs migrants, soit parce qu'il n'y avait plus de travail, soit parce que les migrants étaient vieux, étaient rentrés chez eux, ou soit parce que le logement n'était pas au mieux de sa forme. On pouvait y loger des gens qui, soi-disant, n'avaient pas été mieux à l'abri dans des lieux pas toujours nickel.
D'accord.
Et du coup, de ce que j'ai compris, en ce moment, vous hébergez principalement, en tout cas, beaucoup de demandeurs d'asile. Et un peu comment ça se passe, vos conditions de travail vis-à-vis de ça? Est-ce que Vous trouvez que vous avez la possibilité de prendre en charge ces personnes?
Alors ça a évolué de 94 à maintenant, où on était à un salarié pour 10 demandeurs d'asile. Donc que ce soit un enfant, parce que les besoins des enfants étaient différents de ceux des parents. Donc les emmener à être scolarisés, à avoir un suivi scolaire, à avoir des retours, avoir des parents qui prenaient aussi en charge la vie scolaire de leurs enfants, donc eux-mêmes s'alphabétiser et faire leur biographie pour pouvoir être reçus et entendus et peut-être reconnus réfugiés. Maintenant, nous sommes à 1 pour 20, selon la décision de notre direction, et à 1 pour 20, mais à flux tendu. Parce que si on est à 1 pour 20, dans le genre, vous avez 120 demandeurs d'asile et vous êtes 6 salariés, ça irait. Mais non, en fait, on se retrouve à 4, 4,5, 4, 3 quarts, voilà. Donc ce n'est même plus du 1 pour 20, alors que la loi de la réforme de l'asile d'il y a un an et demi disait, selon la localisation et les difficultés du terrain, un travailleur pour 10 hébergés, ou 10 demandeurs d'asile, jusqu'à 1 pour 20. Évidemment, quand on habite à Centreville, à Lyon, dans un centre-ville, c'est 1 pour 20. Il n'y a aucun souci, ils ont de quoi se transporter. Alors que quand vous êtes très éloigné, vous êtes dans une campagne, il faut les emmener en car ou en bus chez le médecin. Voilà.
Du coup, on imagine que c'est quelque chose contre lequel vous luttez pour avoir plus de personnel. Et du coup, on a entendu qu'il y avait une grève mardi, il y a une autre grève spécifique à Adoma jeudi, du coup hier. Quelles sont exactement vos revendications? Pourquoi est-ce que vous avez été amené à faire grève?
Donc, pour les établissements sociaux, il faut un projet d'établissement à peu près tous les 3 ans. Et notre direction, évidemment, veut rentrer dans les clous. En tout cas, en apparence.
Donc, c'est obligatoire de toute façon.
C'est obligatoire, oui. Selon la loi, quand on accueille dans le social, oui, il faut avoir un projet d'établissement. Okay. Et donc, on doit réunir les salariés et travailler avec eux au projet que l'on veut avoir, de manière à ce qu'ils soient, en étant adhérents et dans la construction, pouvoir l'appliquer. Et le 8 décembre dernier, ils ont été convoqués, les collègues du Rhône, pour faire ce projet d'établissement. Et eux, ils trouvaient qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire avant de travailler à un semblant d'accueil pour les demandeurs d'asile, pour la simple et bonne raison que eux, salariés, étaient déjà tous en lambeaux. Voilà. Et c'est malheureux de voir des gens de 25-26 ans en lambeaux. Parce que quand les gens tombent et dépriment, on ne sait pas quand ils se relèvent et quand ils se relèvent.
Du coup, les revendications de la grève hier, c'était pour les conditions de travail, les remplacements des salariés, c'est ça?
C'était bien ça. Donc hier, nous avons déjà demandé par écrit, dit aussi oralement, pendant la grève, je l'ai entendu dans l'enregistrement, qu'on aimerait, au lieu qu'on décide arbitrairement qu'il y aura 20 demandeurs d'asile pour un salarié et qui ne sera pas respecté dans le temps, pour la simple et bonne raison que quand quelqu'un part en congé maternité, il est remplacé à 0,25% alors qu'il travaille à temps complet. Quand la personne est absente et qu'on le sait, elle prédit, elle prévient, elle dit je vais être opérée, je pars pour 10 jours, on dit oh, ben, c'est que 10 jours, on n'a pas besoin de la remplacer. Donc les gens se retrouvent en fait à faire du 1 pour 25, 1 pour 27. Et le pire, c'est que la loi ayant changé, on accueille de plus en plus fréquemment des gens. Il y a un turnover des gens qu'on accueille. Avant, on avait le temps de s'installer avec eux, d'instaurer la confiance et de travailler. Maintenant, on n'a plus le temps. Les choses vont très vite. Et les choses se compliquent dans le sens où notre direction accueille tout. On a l'impression qu'elle va à la foire d'Empogne, au marché, elle ramasse tout. Au plus bas prix, elle ramasse. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui sont dans une procédure différente de celle qu'on connaît. On ne nous avertit pas. C'est en travaillant avec eux qu'on s'en aperçoit. Donc il y a des Dublinins, il y a la demande d'asile accélérée, il y a des relocalisés. C'est du grand n'importe quoi, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre à le faire. On le fait quand même. Mais à un moment donné, on a tellement fait qu'on a donné l'habitude au patron de croire que tout est extensible. Et ce sont nos collègues qui tombent maintenant. Parce qu'ils sont mal de faire mal leur boulot. Ce n'est pas de l'accueil de qualité.
Donc cette grève hier, c'était pour porter et rendre visible un peu ces revendications, conditions de travail qui...
Oui, et on aimerait réellement que dans ce projet d'établissement, que soit réellement adhérer, enfin, que tout le monde adhère, pas qu'on impose ça aux salariés, parce que ce n'est plus un projet d'établissement dans ce cas-là. On voudrait qu'il y ait donc un infirmier psy, par exemple, sur les sites, qui tourne peut-être un jour dans chaque établissement, parce qu'on a des gens, on n'arrive plus à les discerner, dans le sens où on ne les croise plus assez souvent. Les hôpitaux, avant, on avait des relais, mais on n'a plus de partenariat. On n'a pas le temps. Ça se travaille.
Mais du coup, c'était un peu une belle semaine de grève aussi la semaine dernière, parce qu'il y a eu à la fois des grèves de tout le travail social, donc ce qui a permis aussi à beaucoup de travailleurs et travailleuses sociaux de se rendre compte que c'est des problématiques qui dépassent Adoma, et à la fois des grèves spécifiques sur Adoma qui permettent de faire avancer au sein d'un établissement spécifique des conditions de travail. Peut-être pour conclure, quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un rapport de force qui s'est mis en place? Comment ça se passe peut-être entre ça et voilà, un peu pour conclure les perspectives de ce mouvement de lutte.
C'est quand même malheureux que ce soit vraiment totalement acculé qu'on se retrouve, parce qu'on est très éparpillés, on subit tous les mêmes conditions de travail, tous, même ceux qui disent bon, moi je m'en sors un peu, mais ils oublient qu'à côté, le seuil de tolérance pour l'autre est beaucoup plus bas. Donc la personne supporte moins et craquera. Et quand elle craque, c'est trop tard, parce qu'après on craque, puisque vous remplacez cette personne. Notre problème, c'est qu'on aimerait qu'après 41, voire 37 millions de bénéfices que fait la société, qu'on puisse avoir des salariés. En tant que citoyen, il y a assez de chômeurs. Voilà. Et qui paiera nos retraites si nous, les chômeurs, nous, on ne laisse pas rentrer les gens dans l'activité, le monde de l'activité. Voilà. Et on espère qu'ils vont adhérer à nos propositions pour ce projet commun, parce que c'est un beau projet, à condition qu'il soit réel et pas juste factice sur papier.
Ok.
Eh bien, merci pour cette mise au point sur les luttes des travailleuses et travailleurs sociaux et plus spécifiquement les luttes à Adoma. On va terminer l'actualité locale à travers trois petites brèves. La première, celle-ci, depuis 4 jours, un mouvement de grève est en place au collège Maurice Leroux à Villeurbanne. Certains professeurs et personnels du collège n'ont pas hésité à passer la nuit de jeudi à vendredi, c'était donc cette nuit, dans des tentes devant l'entrée du bâtiment. Dans un communiqué, les grévistes ont annoncé réclamer la création d'une division supplémentaire en 6e, en 4e et en 3e, l'égalité de traitement entre le collège général et les classes de SECPA, ainsi que le respect des élèves primo-arrivants, dont les conditions d'études se dégradent. Alors cette grève, elle a été suivie par 71% des enseignants, ainsi que la totalité du personnel de la vie scolaire, qui a donc cessé son travail. Une délégation devait être reçue aujourd'hui par l'inspecteur d'Akanévi, mais on n'en sait pas plus. Deuxième brève locale.
Oui, et donc il y a un homme, donc une personne âgée de 22 ans qui a été jugée ce mercredi en comparution immédiate. Alors pourquoi? Eh bien en fait, cette personne avait un frère donc incarcéré dans l'établissement pour mineurs de Mézieux. Et donc il voulait lui passer des paquets de clopes qui étaient conditionnés dans des chaussettes. Et donc il essaie de lui les lancer. Et malheureusement, il y a des paquets qui se sont retrouvés sur le toit. Ça a attiré l'attention du personnel pénitentiaire. Et du coup, cette personne a été jugée sans même que le contenu des paquets n'ait été identifié. Et donc lui, il a juste dit qu'il voulait lancer des cigarettes. Et du coup, le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis. Et il a finalement écopé quand même de 2 mois de prison pour avoir voulu filer des clopes à son frangin. Donc voilà.
Et tout de suite, on vous parle d'un personnage éminemment sympathique. Alors, il s'était déjà illustré en refusant d'accueillir des migrants non chrétiens dans sa commune. Il vient de suspendre les repas de substitution à la viande de porc dans les cantines scolaires. Gérard Desampes, maire d'hiver droite de Charvieux-Chavagneux, donc c'est en Isère, s'oppose désormais à l'apprentissage de l'arabe et du turc dans les écoles. Il y voit, dit-il, un début de radicalisation islamiste et en effet, il ne mâche pas ses mots. Il dit « On est en train de donner la possibilité à des gens de lire un certain nombre de documents qui leur permettront de se radicaliser. Il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des radicalisations extrêmement rapides. » Et empêcher la radicalisation islamiste, pour le maire isérois, et comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est d'abord interdire les cours d'arabe et turc dans les écoles de la commune. Ces cours étaient dispensés les mercredis après-midi et samedi matin à une vingtaine d'élèves par des enseignants choisis et payés par les pays concernés en vertu d'accords bilatéraux. Ces cours existaient depuis 40 ans sans poser aucun problème. Ils étaient validés et suivis par l'éducation nationale et les objectifs de ces cours étaient de structurer la langue parlée dans le milieu familial, de favoriser l'épanouissement personnel des jeunes issus d'autres cultures, de valoriser la diversification des langues à l'école. rien à voir donc, et on s'en étonnera énormément, avec une quelconque volonté de transformer des enfants en fondamentalistes islamistes. Mais dans le climat identitaire du moment, et alors que les différents partis politiques jouent au jeu de qui sera le plus raciste, on ne s'étonne malheureusement plus d'actions de ce genre.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu info du vendredi. On enchaîne. Pardon. Hier jeudi 8 mars, vous avez dû suivre, c'était la journée internationale des droits des femmes. Cette journée, rapidement, elle est issue de l'histoire donc, des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. En 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. Et puis, plus tard, en 1911, à la suite d'une proposition de Clara Zetkin, qui est une figure du féminisme révolutionnaire des années 1920-30, qui était assez proche de Rosa Luxembourg. Donc, à son initiative, en 1911, la première journée internationale des femmes est célébrée pour revendiquer le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, donc, des rassemblements et des manifestations ont lieu tous les ans. C'est ensuite en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Et la Journée internationale pour les droits des femmes fait ainsi partie, dès 1987, des journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. Et c'est là un peu que tout fout le camp. Alors, tout fout le camp, pourquoi ? Parce que, par exemple, cette année à Lyon, la municipalité s'est saisie de cette journée pour nous faire des belles campagnes de pub et mettre à l'honneur les femmes remarquables. Et du coup, par la même occasion, un peu rendre moins visibles les autres. Et oui, toutes les autres, toutes celles qui seraient moins remarquables, toutes les femmes qui travaillent tous les jours pour gagner leur vie, toutes celles qui sont au foyer, celles qui étudient, celles qui fuient leur pays en guerre, celles qui s'occupent de leur famille, de leurs enfants, celles qui s'occupent des enfants des autres, enfin bref, la moitié de la population mondiale, quoi. Donc depuis quelques semaines, les visages de femmes remarquables fleurissent à Lyon, puisqu'à l'approche du 8 mars, la ville a souhaité mettre en avant Simone de Beauvoir, Marie Curie, Lucie Aubrac, avec en sous-titre « Partout, toujours, il y aura des femmes remarquables ». Pour l'élue Thérèse Rabatel, adjointe à l'égalité femmes-hommes, le message est celui-là. Prouver aux jeunes femmes notamment qu'il est possible de s'émanciper, de faire le métier qu'on l'on souhaite et d'écrire l'histoire comme leurs brillantes aînées. Mais cette histoire, telle qu'on la faisait déjà au XIXe siècle, nous donne une vision révisionniste et conservatrice du passé. Il faudrait donc être de grandes personnes, avoir fait de grandes choses pour avoir voix au chapitre. Et les autres, le peuple, on n'en parle pas. On rend invisibles les personnes qu'ils composent, qui construisent le monde dans lequel ils et elles vivent tous les jours. C'est un peu l'histoire des grands hommes à la Stefan Bern, en opposition à l'histoire sociale et culturelle qui étudie les structures sociales, mais ça c'est un peu plus complexe et difficile à digérer pour le service marketing de la municipalité. Après, loin de moi la volonté de dénigrer les avancées qu'ont permis les travaux de Marie Curie en sciences physiques, l'action résistante de Lucie Aubrac sous l'occupation et les pensées philosophiques et féministes de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe notamment. Cette campagne et la façon dont elle a été promue et soutenue est aussi une belle façon d'invisibiliser également tous les travaux sur le genre et la construction sociale du féminin et du masculin. En présentant des femmes remarquables, en fait, on reprend les codes de ce que sont aussi les hommes remarquables. Surtout, on empêche de penser le genre et de comment les femmes se construisent socialement, puisqu'on ne montre chez elles que ce qui serait remarquable, donc comme chez les hommes, mais pas ce qui fait que ce sont des femmes et comment elles sont devenues femmes, comme le disait justement Simone de Beauvoir. Thérèse Rabatel, donc l'adjointe à l'égalité femmes-hommes, reconnaît que la situation des femmes au quotidien s'est largement améliorée depuis des décennies, mais que beaucoup de chemin reste à parcourir. Elle dit « On constate aujourd'hui un inquiétant retour de la distinction fille-garçon avec le bleu et le rose, et elle est habillée en bleu pour l'occasion de sa rencontre avec les médias. » Alors, on note le clin d'œil du renversement des codes de genre, on note aussi son caractère peut-être un peu simpliste de la chose. Mais bon, pour le 8 mars, divers événements étaient prévus dans l'agglomération lyonnaise, puisque le TCL distribuait des flyers pour lutter contre les discriminations faites aux femmes dans les bus et autres. Et alors j'ai vu une pub à ce sujet qui m'a un peu fait froid dans le dos. C'est un petit bonhomme avec un boulet au pied et c'est écrit une main aux fesses, un pied en prison. J'ai trouvé ça un peu dur et perso je préfère l'autocollant des copines où c'est écrit une main aux fesses, un poing dans ta gueule. Ça me paraît un peu plus radical. Et aussi un peu drôle, l'Olympique Lyonnais a distribué des roses aux femmes et aux hommes place Bellecour le 8 mars. Voilà, super chouette. Bref, à côté de ces jolies campagnes, il y avait aussi une grève prévue hier à partir de 15h40 place de la Comédie à Lyon. Puisque 15h40, c'est l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour sur la base d'une journée standard. En effet, aujourd'hui, les femmes, elles sont toujours payées 26% de moins que les hommes. Le travail domestique est encore à la charge des femmes à hauteur de 72%. Elles sont 30% à travailler à temps partiel. Elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement. Elles n'ont pas de déroulé de carrière. Elles gagnent moins de primes, moins d'heures supplémentaires. Elles touchent 39% de moins que les hommes à la retraite. C'était donc pour toutes ces raisons qu'un appel à la grève a été lancé, ici à Lyon, mais aussi en France et dans de nombreux pays. On rappelle que dernièrement, les femmes étaient plus de 300 000 à manifester en Pologne pour le droit à l'avortement. Elles étaient en grève en Islande pour obtenir l'égalité des salaires. Elles étaient en grève en Argentine contre les violences. Et elles se sont mobilisées dernièrement contre Donald Trump aux États-Unis. En effet, en 2017, le contexte politique, social et économique international comme national n'offre pas de répit pour toutes celles et ceux qui œuvrent à plus d'égalité et de justice sociale. La banalisation des idées d'extrême droite, on vient de le voir il y a quelques minutes en Isère, notamment, la montée des conservateurs dans les élections aux États-Unis mais aussi dans différents pays européens, la répression du mouvement social sont des signes inquiétants pour nos droits, à tous et à toutes. Et vite fait, pour enchaîner, bah oui, parce qu'on n'a jamais le temps de le faire à la fin, alors je vais le faire tout de suite. Du coup, agenda féministe, puisque en ce moment, c'est le festival de cinéma LGBTQ qui s'appelle Écran Mixte, qui existe depuis 7 ans. C'est du 8 au 14 mars et demain, samedi, de 23h à 14h au Feuillant, rue des Feuillants à Lyon. C'est la soirée officielle du festival Écran Mixte. Demain, toujours au lavoir public, c'est Chiros, qui est organisé par l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes, qui milite pour plus d'égalité dans les arts et la culture. Au lavoir public, donc, dans la journée, il y a des ateliers artistiques tout public pour mettre en valeur les héroïnes du passé, du présent et de l'imaginaire collectif. Et puis, à partir de 18h, c'est soirée informative, conviviale, festive, avec restitution des ateliers de l'après-midi, exposition, lecture, performance, conférence, buffet vegan et soirée dansante avec deux DJs. Et dimanche, au Rita Plage, 68 rue Court-Tolstoï à Villeurbanne, c'est l'accueil du collectif qui a traduit en français le livre « Ne crois pas avoir de droit » qui est sorti là il n'y a pas longtemps, donc c'est à partir de 16h30 dimanche. Ce livre, il a été écrit par des féministes italiennes qui racontent leur expérience des années 70-80 à Milan dans des groupes d'autoconscience en expliquant là où elles ont trouvé de la force et aussi les obstacles qu'elles ont rencontrés, cherchant à retrouver les fils d'une puissance féminine face à la norme symbolique masculine. Elles remettent en question les dynamiques de reconnaissance et d'imposition de cadres légaux, notamment dans un contexte de lutte pour l'avortement. Donc elles viennent présenter leur travail et un temps de discussion dimanche après-midi, mais c'est en non-mixité. Et oui. Voilà, pour l'agenda féministe de ce week-end, on enchaîne je crois avec le national.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on commence tout de suite les infos nationales par une toute petite brève sur un grand groupe qui distribue de l'eau, notamment à Lyon. Veolia, car en 2013, le Parlement français décrétait l'interdiction des coupures d'eau pour factures impayées dans les résidences principales. 4 ans plus tard, cette interdiction a toujours du mal à passer pour les multinationales du secteur, Suez par exemple, et Veolia en tête. Ces multinationales ont en effet cherché à faire voter en vain un amendement revenant sur cette interdiction. Elle rechigne apparemment à appliquer la loi, comme le montrent les nombreuses affaires portées par des associations devant la justice. Ces associations, ce sont par exemple France Liberté ou encore la Coordination Eau Île-de-France. Les fournisseurs d'eau qui avaient procédé à des coupures ou à des lentillages. Alors qu'est-ce que sont les lentillages? Ce sont des procédés qui consistent à réduire le débit d'eau arrivant dans les foyers. C'est un peu salaud.
Donc, il y a un rapport avec le fait de manger des lentilles, quoi.
Rien à voir. Et donc ces fournisseurs d'eau qui procédaient au lentillage ont systématiquement été condamnés. Ça pourrait être envoyer des lentilles dans les canalisations d'eau autrement, mais ce n'est pas plus ça. Donc le lentillage, cette façon de réduire le débit d'eau, eh bien c'est pas bien, c'est pas correct, c'est ce qu'a dit la justice. 14 décisions de justice ont été rendues en ce sens et 4 visaient spécifiquement Veolia. Les multinationales de l'eau, pas contentes du tout, ont tenté de faire invalider la mesure en faisant valoir une question prioritaire de constitutionnalité, mais là aussi en vain. Voilà, alors nul doute qu'elle s'apprête à revenir à la charge après les prochaines échéances électorales. Voilà, et on enchaîne complètement avec quelque chose qui n'a rien à voir. On revient un peu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on revient à Valence et on va vous parler du soutien pour des prisonniers mutins à Valence. C'était aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si c'est Veolia qui apporte l'eau en prison, mais en tout cas, à Valence,
ça dépend où.
Aujourd'hui, le tribunal de grande instance doit s'est prononcé, du coup, mais je ne sais pas le résultat, sur le sort de José et Romain, poursuivis dans le cadre de la mutinerie, ayant conduit le 27 novembre 2016 au saccage d'une partie de la prison de Valence. Ouais. Les détenus protestaient contre le régime de détention très strict de l'établissement, un fonctionnement allant à l'encontre des recommandations du Conseil de l'Europe qui préconise de réduire au maximum les dispositifs de sécurité contraignants au sein des prisons. Et de toute façon, une mutinerie en prison peut toujours se dire que c'est une bonne chose. José et Romain sont accusés d'avoir été les meneurs du mouvement des détenus qui s'est déroulé le 27 novembre 2016 au sein du quartier Maison Centrale du centre pénitentiaire de Valence, qui accueille des personnes condamnées à de longues peines de prison. Alors que le fonctionnement des établissements pour peine est généralement plus souple que celui des maisons d'arrêt, les détenus se plaignaient du régime particulièrement durci de la maison centrale de Valence. Ils avaient fait part de leur doléance à plusieurs reprises auprès de la direction de l'établissement par des courriers, des refus de réintégration des cellules ou des blocages de cours de promenade, et avaient alerté l'OIP et le contrôleur général des lieux de privation de liberté de leurs conditions de détention. Un premier mouvement de détenus avait déjà eu lieu le 25 septembre 2016. Et du coup, on peut citer une phrase de Romain qui se demandait alors, quand les écrits ne font rien, que reste-t-il à part les actes ? Du coup, c'est une mutinerie qui a été relayée par l'OIP, mais aussi par le journal L'Envolée, qui appelle à un maximum de soutien pour ces deux prisonniers, et qui rappelle que le 6 janvier dernier, les magistrats de ce même tribunal ont déjà distribué un cumul de 9 années de prison supplémentaire à 3 autres prisonniers, longue peine aussi, pour une première mutinerie qui avait du coup eu lieu en septembre. Déjà, des prisonniers avaient dérobé les clés de Maton, ouvert les cellules du quartier de la maison centrale, détruit des caméras de vidéosurveillance et mis le feu à des matelas. Ces peines sont supérieures aux peines que les mutins de Châteaudun se sont pris dans la bouche en 2013. Elles n'excédaient alors pas 18 mois pour ceux qui avaient été désignés comme meneurs. Bien supérieure encore aux peines de 8 mois qui avaient été distribuées pour la destruction totale de la prison de Nancy en 72, peine que les mutins d'alors qualifiaient déjà d'insupportable. En 45 ans, la pénalisation des révoltes sociales de prisonniers s'est considérablement accentuée et le TGI de Valence en donne une illustration de plus. Insupportables les magistrats de ce tribunal qui, pour mieux tirer à peine réelle, interdisent l'accès à une audience civile, donc publique, aux personnes contrôlées, puis identifiées comme soutien potentiel aux prisonniers inculpés. Le 6 janvier, 2 personnes avaient en effet été retenues à l'unité de garde à vue du commissariat de la Comédie pendant la durée du procès. Insupportable que les prisonniers soient jugés dans une salle tout entière acquise au point de vue des matons. Insupportable ces avocats du barreau de Valence qui, dans cette petite ville où tout le monde se connaît, s'accommodent fort bien des pratiques d'intimidation des magistrats et vivent de défenses couchées qu'ils facturent aux prisonniers transformés en clients. Insupportable le tribunal de grande instance de Valence. face à la justice, face au syndicat de la pénitentiaire. Du coup, le journal L'Envolée appelle à soutenir publiquement ces deux prisonniers de la deuxième mutinerie. Ils ont donc donné rendez-vous aujourd'hui à 13h30, place du tribunal de grande instance de Valence, pour témoigner de notre solidarité et de ne pas laisser la justice poursuivre son méticuleux travail d'élimination sociale. On ne fait que vous encourager du coup à aller voir sur internet le résultat du coup de ce jugement et à continuer à soutenir les prisonniers et les prisonnières partout en France et ailleurs.
Voilà, merci. Et là encore, on va faire sans transition, on va sauter la Méditerranée, un bout de continent africain, et se rendre à Mayotte, puisque sur les 30 000 reconduites aux frontières en France, plus de la moitié se passe là-bas, à Mayotte, département français au large du Mozambique, loin des yeux de la métropole. Là-bas, 3 000 mineurs isolés étrangers ont été recensés sur l'île par le Défenseur des droits en 2015. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces mineurs isolés, vivent dans des bidonvilles, comme celui de Bandrajou, l'un des quartiers du plus grand bidonville de France, où s'entassent plus de 15 000 personnes. Beaucoup de ces jeunes migrants viennent des Comores, un archipel situé à 70 km de Mayotte, un tout petit bras d'océan. La traversée pour aller des Comores à Mayotte, pardon, se paye entre 700 et 1000 euros. On paye des passeurs. L'équivalent pour un Comorien, un salaire moyen de Comorien, d'un an de salaire. Alors souvent, les familles qui ont mis de côté, eh bien, ils mettent sur le bateau un jeune, un enfant, pour qui la famille espère un futur meilleur. Et en l'espace de 20 ans, selon les autorités comoriennes, il y a eu au moins 12 000 personnes qui ont trouvé la mort dans ce petit bout d'océan, ces 70 km qui séparent les Comores de Mayotte. La plupart des mineurs isolés qui arrivent à Mayotte ne sont, en plus, donc ils vivent dans des bidonvilles et ils ne sont pas scolarisés. Je rappelle une deuxième fois que Mayotte est un département français. À la place, ils tiennent souvent les murs d'une forme de salle de classe dans ces bidonvilles où ils vivent, salle de classe que des associations du coin mettent à disposition où on organise des ateliers de rattrapage scolaire quand on peut et où on peut. Disposer d'extraits de naissance et d'un carnet de santé devrait suffire normalement en France pour pouvoir être inscrit à l'école. En tout cas, ailleurs en France, c'est possible, mais pas dans le dernier département français, puisque là-bas, les choses se passent différemment. Manque de moyens, de profs, d'établissements. Malgré les promesses de Paris, les infrastructures manquent et l'éducation nationale n'arriverait pas à suivre. Ici, un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans. En 1976, année de son rattachement à la France, cette ancienne colonie comptait 6000 élèves. 40 ans plus tard, elle compte plus de 90 000 jeunes en âge d'être scolarisés pour une population totale de 212 000 habitants, quasiment la moitié donc. Les autorités opèrent un tri. En plus des pièces justifiant de leur âge, les jeunes doivent fournir un justificatif de domicile et ou une attestation de délégation d'autorité parentale. Alors quand on a été placé sur un petit bateau qui est parti des Comores, c'est un peu compliqué. Un dispositif illégal selon le Défenseur des droits. Selon les estimations de l'Institut, au moins 7000 enfants ont ainsi été écartés. En réalité, ils sont beaucoup plus, et quand on lui demande, le vice-rectorat ne sait pas. Ou alors il ne préfère pas savoir. Voilà, qui imagine sérieusement qu'un gamin des bidonvilles sans parents réussira à fournir des papiers et à les réunir. Voilà, autre entorse à la loi pour terminer, cette loi interdit normalement d'expulser un mineur sans ses parents. Mais à Mayotte, la police fait du zèle. Les enfants étrangers sont placés au centre de rétention administratif, les fameux CRA, et rattachés arbitrairement à un adulte sans lien de parenté. C'est ce qu'explique Méline Moroni, juriste chargée de mission au CRA de Mayotte. Un tour de passe-passe dénoncé là aussi par le Défenseur des droits. Mais ici, rien ne change, soupire Albert Nianguil, président de l'antenne locale de la CIMAD, qui a été entendu par des reporters de Street Press. Les autorités, Albert Nianguil poursuit en disant « Les autorités profitent du sentiment général contre les clandestins pour fermer les yeux sur des pratiques aberrantes. » Interrogée sur ce point, la préfecture de Mayotte n'a pas donner suite. Voilà, on aime vraiment beaucoup la France. Et on enchaîne sur l'actualité internationale.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Une rubrique internationale aux couleurs des États-Unis aujourd'hui.
Eh oui, puisqu'aux États-Unis, les Républicains mènent une offensive générale contre le droit de manifester. Depuis l'élection de Donald Trump, les élus républicains s'attaquent au droit de manifester, visant notamment les opposants au projet d'oléoduc, on vous en parlera tout à l'heure. Le site Reporter dresse un inventaire de ces projets de loi, dont l'une prévoit même l'impunité des conducteurs renversant des manifestants. Du coup, je ne sais pas si vous en rirez ou en pleurez, mais on avait envie de vous faire un retour sur tous ces projets de loi qui sont quand même vraiment aberrants et qui donnent un peu la couleur de l'action politique du moment aux États-Unis d'Amérique. L'attaque contre un droit garanti par le premier amendement de la Constitution états-unienne est sans précédent. Mais depuis l'élection de Donald Trump, des législateurs républicains ont introduit ou voté, dans au moins 18 États, des lois qui répriment les manifestations de masse. De la Virginie à l'État de Washington, les élus ont présenté des projets de loi pour accroître les sanctions contre les manifestants qui bloqueraient des autoroutes, pour interdire l'utilisation de masques pendant les manifestations et pour indemniser les conducteurs qui blesseraient avec leur voiture des manifestants marchant sur une route.
Normal.
Et même pour saisir les biens de manifestants qui auraient participé à une manifestation où des violences contre des biens se seraient produites. C'est un peu le donnant-donnant. Il y a eu aux États-Unis ces dernières années une recrudescence de manifestations, qu'il s'agisse de défendre des droits des Noirs illégalement tués par les policiers, on vous a parlé plusieurs fois du mouvement Black Lives Matter, ou de s'opposer à des projets d'oléoduc comme le Keystone ou récemment le Dakota Access, où M. Trump vient de faire démanteler avec violence le campement des militants. Donc une des grandes idées, c'est de facturer aux manifestants arrêtés le coût du service d'ordre policier. Les élus républicains qui cherchent à faire passer ces lois liberticides font semblant d'ignorer la nuance entre manifestations pacifistes et émeutes, prétendant ne pouvoir réglementer que les secondes. Le mot émeute étant très proche du mot terrorisme, l'assimilation est claire et le passage des lois relativement facile. Certains élus présentent ces projets de loi comme nécessaires pour contrer les actions des manifestants payés ou professionnels. On retrouve ici toutes les thèses du complot. D'autres disent que les mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique sur les routes. Certains projets de loi, dans des états comme l'Oklahoma et le Dakota du Sud, sont destinés à décourager les protestations. Alors je vais essayer de vous faire un rapide inventaire. Il ne sera pas complet, mais pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe, par exemple dans le Colorado, le projet de loi renforcerait les condamnations de saboteurs d'équipements pétroliers ou de manifestants qui ferment des pipelines. En Floride, le sénateur républicain George Gainer voudrait, dans certaines conditions, permettre aux automobilistes de renverser des manifestants pour les empêcher de bloquer les rues.
On attend qu'ils manifestent avec impatience.
En Géorgie, une loi est déjà passée, poussée par 6 sénateurs qui renforcent les peines contre ceux qui bloquent les routes, rues ou tout passage public. Dans l'Iowa, 9 sénateurs républicains aimeraient infliger 5 ans de prison aux manifestants qui bloquent le passage. Dans le Minnesota, le projet de loi prévoit de lourdes amendes et rend possible de facturer aux manifestants arrêtés le coût du service d'ordre policier. Et oui, finance ton flic. Dans le Missouri, le projet est d'interdire aux manifestants le port de masques ou d'autres déguisements. Dans le Mississippi, la loi en cours de discussion prévoit 10 000 dollars d'amende et des peines de 5 ans de prison pour toute personne obstruant la circulation. Donc, parler de condamnation très lourde pour tout acte considéré comme du terrorisme économique, c'est... Enfin, en fait, on est vraiment dans l'absurde, mais c'est vraiment des projets de loi qui sont en cours, dont certains sont déjà passés. En Caroline du Nord, il suffira de chahuter un personnage officiel de l'État pour être poursuivi pénalement. Dans le Nord Dakota, les protestations contre le pipeline Dakota Access ont suscité plusieurs projets en cours d'examen. Dans l'Oklahoma, les sénateurs envisagent une loi qui augmente les pénalités envers ceux qui font intrusion sur des propriétés privées, du coup mines ou sites pétroliers, ou d'extraction de schiste par exemple. Dans l'Oregon, l'idée est d'obliger les universités et les écoles à expulser les étudiants qui auraient participé à des manifestations. Dans le Dakota du Sud, une loi a été récemment votée qui prévoit de lourdes pénalités pour violation de propriété privée, en prévision de la future résistance au cas où le pipeline Keystone XL reprendrait. Dans le Tennessee, il suffit de protéger les conducteurs qui blesseraient des manifestants, une sorte de permis de foncer dans la foule. En Virginie, la loi en examen qui aurait augmenté des condamnations de militants refusant de se disperser vient d'être bloquée. Dans l'État de Washington, les législateurs étudient une loi qui imposerait les condamnations très lourdes pour tout acte considéré comme du terrorisme économique. Et pour finir, dans l'Arizona, où le sénateur républicain John Kawanak prétendait saisir les biens des manifestants en arguant que la plupart d'entre eux ne sont que des, je cite, agents provocateurs à temps plein et quasi professionnels payés pour créer un désordre public. Les manifestations, encore admises dans l'Arizona, ont conduit le président républicain de la Chambre des représentants de l'État, J.D. Messner, à retirer la proposition de loi. Il a déclaré, je cite, qu'on ne peut pas, qu'on n'a peut-être pas besoin de nouvelles lois pour éviter les violences dans les manifestations et que, puisque les citoyens pensent que cette loi est une atteinte au droit de manifester pacifiquement, cela rend la législation politiquement inacceptable. Pour se consoler, le Parlement de l'Arizona a approuvé un ensemble de mesures qui rendent plus difficile pour les citoyens de proposer leur propre loi par le biais du processus d'initiative et qui facilite pour les législateurs la possibilité d'abroger ou de modifier ces lois voulues par les électeurs. Bonne chance à tous nos camarades manifestants, manifestantes aux États-Unis d'Amérique. Et vive la lutte.
Oui, et justement, il y en a quand même qui continuent de lutter. Depuis quelques jours, des tentes indiennes ont été dressées sur le Mall, l'esplanade en plein cœur de Washington DC, qui va du Capitole au Washington Monument. Alors ce 10 mars, c'est aujourd'hui, des milliers de manifestants amérindiens et environnementalistes vont marcher ou sont en train de marcher côte à côte dans les rues de la capitale pour demander l'arrêt de la construction d'un pipeline, le pipeline Dakota Access, pipeline qui passe notamment donc dans le Dakota du Nord, on vient d'en parler. Ce pipeline, dans sa totalité, est long de 1885 km, c'est un gros pipeline, oléoduc donc qui doit transporter du pétrole des grandes plaines du nord du pays jusqu'à l'Illinois, en passant près de la réserve Sioux de Standing Rock. Depuis le mois d'avril, plus de 200 tribus autochtones se mobilisent pour que le projet soit arrêté. Ce projet, il coûte quand même 3,8 milliards de dollars, et cet oléoduc, aujourd'hui, il est construit en réalité à plus de 90%. Il aurait déjà détruit plusieurs sites sacrés Sioux et risquerait de polluer l'eau de la rivière Missouri. Energy Transfer Partner, c'est l'entreprise qui est en charge de la construction. Et cette entreprise n'attendait plus qu'une dernière autorisation du corps d'armée propriétaire du terrain pour achever le projet là où il n'avait pas encore été achevé. Et cette autorisation, elle aura été délivrée début février. Le tuyau est donc maintenant quasiment terminé. Le pétrole pourrait même y circuler la semaine prochaine. Alors rapidement, les Sioux de Standing Rock et les Cheyennes de River se sont alliés pour attaquer cette décision devant la justice et faire en sorte que le projet soit arrêté en attendant que le tribunal rende sa décision finale. Mais ça n'a pas marché, ils ont été déboutés mardi. Le juge fédéral a estimé que le fonctionnement de l'oléoduc ne mettait pas en danger leur droit à un libre exercice de leur religion garanti par la Constitution. Les Sioux et les Cheyennes ne sont pas vraiment satisfaits, ils estiment au contraire que leur rite traditionnel nécessite une eau pure car sacrée. Or, la présence juste à côté d'un oléoduc qui fait passer du pétrole brut, c'est vrai que ça rassure pas forcément pour avoir une eau pure. Celles et ceux qui manifestent donc aujourd'hui à Washington n'espèrent pas réellement un sursaut de l'administration Trump, on les comprend, mais ils viennent surtout sensibiliser les élus du Congrès qui siègent également à Washington et ils veulent les sensibiliser à leur cause. Selon la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les Amérindiens doivent être consultés pour les projets d'infrastructure les concernant. Et les représentants Cheyenne et Sioux demandent que le consentement des communautés amérindiennes devienne obligatoire. Ils pourraient ainsi bloquer des projets qui portent atteinte à leur sécurité, comme cet oléoduc. Et alors pour finir avec cet oléoduc, derrière cet oléoduc on trouve des banques françaises qui ont largement investi pour soutenir le projet. 450 millions de dollars pour la BNP Paribas, 120 millions de dollars pour le crédit agricole, même chose pour la Société Générale. Et enfin, Natixis a également investi 180 millions de dollars pour ce joli projet. Bravo les gars, ça nous fait penser un petit peu à Lafarge qui s'est empressée de signifier à l'administration Trump qu'elle était tout à fait opérationnelle pour construire le mur anti-migrant qu'il compte construire entre le Mexique et les États-Unis. Business as usual.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et donc c'est parti pour l'agenda.
Voilà, tout à fait. Et alors, juste jusqu'au 17 mars, vous pouvez aller voir l'exposition citoyenne et militante. Donc ça se passe à la MJC de Villeurbanne. Donc c'est dans le cadre du cycle « Que devient la colère des peuples ?» Ensuite, jusqu'à demain, semaine expérience politique. Donc ça se termine demain et donc vous pouvez encore y aller et il y aura des ateliers pratiques. Et alors je vous détaille pas les ateliers pratiques parce que je les ai pas sous les yeux de toute façon.
Du coup c'est pas pratique.
Je vous invite à aller voir par exemple sur Rebellion pour si vous voulez avoir plus de détails. Ensuite bah il y a des donc samedi il y a deux événements aussi dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a Chiroz, donc ça se passe au lavoir public. Bon, je vous redis pas ce que c'est, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et le et il y a aussi un événement au Rita Plage. Ne crois pas avoir de droit. Donc voilà, c'est en... Ah non, mais ça c'est lundi ça
c'est
en fait.
C'est dimanche.
Ah non, c'est dimanche. Oui. Merde. Bon bref, voilà. Ensuite lundi, il y a la permanence juridique de soutien aux sans-papiers. Tout est sans dessus-dessous sur mes feuilles. Et donc, y a un autre événement, il paraît.
Et ouais, c'est le 15 mars, on vous en a déjà parlé, mais les coursières à vélo se mobilisent. Ils se mobilisent particulièrement à Lyon. Et là, le 15 mars, donc en fait, c'est mercredi prochain, il y a un appel à mobilisation nationale, à la déconnexion. En fait, ils veulent se déconnecter des plateformes pour râler parce qu'en fait, ils se font exploiter par ces plateformes. Ils demandent que les tarifs soient fixés par les livreurs et non pas par les plateformes, qu'ils puissent en fait négocier leurs conditions de travail et leurs conditions de rémunération, que leur statut d'indépendance soit respecté, c'est-à-dire qu'en fait, les plateformes ne leur imposent pas tout et n'importe quoi, notamment de servir de panneaux de pub en portant leurs vêtements, leurs sacs, etc. Et ils demandent aussi le gel des recrutements parce qu'une des méthodes des plateformes, c'est de recruter un maximum de coursiers, comme ça ils sont en concurrence permanente et ça fait baisser les tarifs. Alors à Paris, il y a un rendez-vous dont on se fiche un peu, mais surtout à Lyon, il y aura une réunion publique, un sit-in, à partir de 18h le 15 mars, et dans leur communiqué, les coursiers et coursières de Lyon appellent chaudement à venir les soutenir, discuter et en savoir plus sur leur combat. Donc c'est le 15 mars à 18h, place des Terreaux.
Et d'ici là,
paniquez pas.
Niquez tout.
Noise pollution.